الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا، رزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن دعوة لا يستجاب لها. إخوة الإيمان، إن شاء الله nous allons commencer cette deuxième partie au niveau où nous sommes, ou alors à partir du niveau où nous sommes arrêtés hier. Et comme le rappel est utile pour le croyant, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَذَكِّرْ et rappelle, car le rappel est utile pour le croyant. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Nous continuons donc de rappeler que nous sommes dans les 10 meilleurs jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله il n'y a pas de jour plus grand auprès d'Allah. Il n'y a pas de jour plus grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Il n'y a pas de jour plus grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des jours où les bonnes œuvres sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme pendant ces 10 jours. La particularité de ces récits par rapport aux autres récits, c'est que dans la suite du hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué un acte d'adoration auquel nous nous devons de nous attacher pendant ces 10 jours. Et parce que c'est la moindre des choses. فقال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Multipliez pendant ces jours, التهليل. والتهليل هو الذكر بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. Donc, ce ذكر que nous venons de réciter le deuxième, c'est ça التهليل. Et dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de multiplier التهليل. Ainsi que التكبير, qui est la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'expression Allahu Akbar. Il nous a également demandé de faire At-Tahmid, qui est le fait de louanger Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'expression Alhamdulillah. Et parce que الثواب الكامل لا ينال إلا بالعمل الكامل. Et parce qu'on obtient le mérite pleinement que lorsqu'on accomplit l'acte pleinement, nous devons de comprendre ce que c'est que التهليل. Afin d'accéder au mérite promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de multiplier التهليل, والتكبير, والتحميد, c'est parce qu'il y a beaucoup de mérites pour ces affaires-là. Et parmi ces mérites, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, c'est-à-dire dans un hadith authentique, « قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِثْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمضي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد أمن أكثر من ذلك. الله أكبر. نعطيه في تأثير أخوة البخاري لبوفي محمد صلى الله عليه وسلم دي كيكم كذب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه 100 مرة. كيكم كذب سبيكر سبيكر 100 fois. Non, au cours de la journée, je compte le résultat de quel temps pour continuer de rire à la roue de la chère. Cela, non, vaudra pour lui comme s'il avait délivré 10 personnes. Comme s'il avait délivré 100. Non, achère avec ça, 10. 10 esclaves. Comme s'il avait délivré 10 esclaves. Au côté de la Moumia Hassana, on lui prescrit 100 récompenses. Au Moumia Anbu, Mia Tusegira, on lui efface 100 péchés. Au Kanet la Mouhirza Mina Shefan, et cela représentera pour lui un bouclier contre le diable. Ce jour, c'est jusqu'à ce que le soir arrive. Jusqu'à ce que le soir arrive. Voilà, miyati ahadum bi afdala mimma jaa bihi. Et personne ne viendra avec quelque chose meilleur que lui. Yani, c'est lui qui a dit ça, cette expression. 100 fois. Par jour, personne n'est meilleur que lui. Illa ahad amila akthara min dhalik. Sauf une personne qui aura répété plus de 100 fois. C'est la seule personne qui peut écrire au-dessus de cette personne. Donc c'est l'occasion pour nous de profiter et de réciter At-Tahlil, At-Takbir, At-Tahmid, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Mais ce que j'ai voulu qu'on comprenne ici, c'est qu'on ne peut accéder pleinement à ses mérites que si on récite ce vécu pleinement comme il se doit, en méditant sur le sens de ce dhikr, en profitant sur les leçons que renferme ce dhikr. Quand on dit « La ilaha illallah », on atteste qu'il n'y a point de divinité d'une adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant qui est entré dans l'islam par cette expression et qui sait et atteste qu'il n'y a point de divinité d'une adoration à part Allah, quand il le reprend, c'est un rappel pour lui, qui lui permet de se remettre en cause et de se demander s'il a toujours voué son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Il est unique, il n'y a point d'associé. C'est un rappel. Wahdahu la sharika la. Lahul mulk, c'est à lui qu'appartient la royauté. Lahul hamd, c'est à lui qu'appartient la louange. Wahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Allahu akbar ya ikhwa. Quand on médite sur le sens de ces expressions, on se rend compte qu'en réalité le croyant ne devrait pas avoir de problème. Et que le croyant ne devrait pas être soucieux. Parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui est le digne d'être adoré, est celui qui l'adore. Et il sait que c'est à lui qu'appartient la royauté. Et c'est que c'est à lui qu'appartient la loi et il est capable de toutes choses. Il ne nous reste plus donc que de nous confier. Ça veut dire qu'il ne lui reste plus donc que de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc, nous avons voulu rappeler le sens de At-Tahlil avant de revenir au livre l'imam Ibn Qayyim rahimahullah qui a Dawa, et nous allons poursuivre à partir de l'endroit où nous nous sommes arrêtés hier, Inch'Allah. Donc, قال رحمه الله وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. Donc, hier, Ibn Qayyim rahimahullah était en train de nous expliquer qu'en réalité, le Coran dans sa globalité est une guérison pour tout croyant. et que les versets du Coran représentent une guérison en soi-même. Yani chaque verset représente une guérison et regorge une guérison. Mais le problème parfois, c'est la personne sur qui on lit et celui qui lit. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours utile. Et toute parole d'Allah subhanahu wa ta'ala constitue une guérison. Non, toute parole d'Allah subhanahu wa ta'ala constitue en soi-même une guérison. Mais le problème ne peut se trouver qu'au niveau du malade ou alors de celui qui soigne et qui utilise le verset du coranique pour soigner. Donc il poursuit en disant, après avoir cité l'exemple que nous avons cité hier, il dit « Wakada alika dua ». C'est pareil, la dua est pareille que les médicaments que nous utilisons souvent. « Fa'innahu min aqwa al-asbab fi daf' al-makruh wa husul al-makruh ». Les invocations font partie des causes les plus fortes pour ce qui est du repoussement des choses nuisibles. « Wa husul al-makruh » et ça fait partie des fortes raisons qui nous permettent d'accéder aux choses voulues, là, aux choses auxquelles nous aspirons. ولكن قد يتخلف عنه اثره. Je dis, mais cependant, il se peut que l'influence de l'invocation ne se produise pas. Et en école, on ne constate pas l'influence du Coran lorsqu'on lit sur soi ou lorsqu'on lit sur l'autre. إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. Il commence à citer les causes qui peuvent faire à ce qu'on ne constate pas, ou alors qui peuvent empêcher que l'invocation agisse sur nous. Il dit إما لضعف في نفسه, soit ça peut être à cause d'une faiblesse dans l'invocation elle-même. L'invocation utilisée peut comporter une chose peut être constituée d'une chose qui la rend faible. بأن يكون دعاء لا يحبه الله. C'est quoi cette chose qui peut rendre l'invocation faible? Ça peut être une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala à n'avoir n'aime pas. لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُدْوَانِ, à cause de ce qu'elle renferme comme injustice. Et en quand quelqu'un prie contre une personne injustement, non, la personne peut utiliser des expressions enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, dans le but de nuire, dans le but d'être en état injuste. وَإِمَّا لِضَعْفِ الْقَلْبِ, ou alors soit à cause de la faiblesse du cœur de celui qui récite l'invocation. وَعَدَمْ إِقْبَالِهِ عَلَى اللَّهِ وَجَمْعِيَّتِهِ عَلَيْهِ وَسَدُعَى. Soit, ça peut également être à cause de la faiblesse du cœur de celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala et son manque de rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَدُعَى, au moment où il est en train de d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا. En ce moment alors, l'invocation est comme cette personne dans cette situation est comparable à quelqu'un qui tire à base d'une lance une lance qui a des problèmes à base d'un arc, non, d'un arc qui a des problèmes. فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا, parce qu'un arc qui a des problèmes, lorsqu'on tire, la lance sort faiblement. Pas parce que la lance a un problème, mais parce que l'arc en lui-même n'est pas en bon état. وإما لحصول المال من الإجابة, ça peut également être à cause de quelque chose qui empêche qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce la prière du croyant, من أكل الحرام, comme le fait de manger, de consommer ce qui est illicite, والظلم, comme l'injustice, وغين الذنوب على القلوب, et le fait que les péchés s'installent sur les cœurs. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent empêcher qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce la prière du croyant. Ça peut également être, yani parmi les causes qui empêchent qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ou alors accepte l'invocation du croyant, il y a le fait que l'insouciance envahisse son cœur. Et le fait que l'insouciance envahisse son cœur, de même que les passions. Donc ça fait partie des choses qui empêchent qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Ensuite, le chef poursuit en disant, Kama fi mustadrak al-Hakim min hadith Abi Huraira, comme il a été rapporté dans le mustadrak de Imam Hakim, min hadith Abi Huraira, et mustadrak, c'est un livre de hadith parmi des livres importants. Pourquoi? Parce que Imam Hakim avait pris la responsabilité de réunir tous les hadiths qui respectent les conditions de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim et qui n'ont pas été rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. C'est pour ça qu'on appelle Al-Mustadrak, comme s'il les rattrapait. Il dit, voilà, vous nous avez fixé des conditions et voilà des hadiths qui respectent les conditions que vous avez fixées qui ne figurent pas dans vos livres. Vous voyez pourquoi Al-Mustadrak est important. Donc c'est un livre important parce que ça regorge beaucoup de hadiths authentiques qui n'existent pas dans Bukhari et dans Muslim. Donc, dans mon stade de l'imam Hakim, il y a rapporté un hadith d'Abi Huraira qui dit à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Par exemple, dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréera vos invocations. Pendant que lorsque vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala, ayez la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala exaucera votre prière. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِّنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَّاهٍ. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agré pas l'invocation d'un cœur plongé dans l'insouciance. D'un cœur insouciant. Non? وَلَاهٍ. Yani, qui n'est pas tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'imam Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah veut qu'on comprenne de ce hadith? Qu'effectivement, il y a des choses qui empêchent qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce la prière. Donc, le problème dans ce hadith, ce n'est pas l'invocation, mais c'est ces choses-là qui empêchent l'invocation. Donc, il y a des choses qui empêchent qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation et le croyant. Dieu d'intelligent se donne tous les moyens nécessaires pour connaître les choses qui empêchent qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce une prière. هذا دواء نافع مثير للنداء ولكن غفلة القلب ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. Il dit, voilà par exemple quelqu'un qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qui utilise une invocation qui en réalité dissipe, non, qui peut dissiper les problèmes de celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, il utilise une invocation utile qui peut dissiper une maladie, وَلَكِنَّ غَفْلَةَ الْقَلْبِ أَلِلَّهِ تَبْتُلُ قُوَّةَهُ. Mais cependant, son insouciance, l'insouciance de son cœur envers Allah subhanahu wa ta'ala a rendu son invocation faible. Donc le problème, ce n'est pas dans l'invocation, mais le problème, c'est en lui. C'est celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui a un problème. Pourquoi? Parce que pendant qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a invoqué Allah avec un cœur noyé d'insouciance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani nous accorde la clairvoyance. Et nous facilite yani l'invocation comme il se doit. وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, le fait de consommer ce qui est illicite n'a fait partie des choses qui rendent ou alors qui affaiblissent l'invocation. Qui affaiblissent l'invocation. كما في صحيح مسلم قم إلى إثرة فتدعوه صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني لبروفة محمد صلى الله عليه وسلم أدي يا أيها الناس إن الله طيب وقم سشك الله سبحانه وتعالى إبنتي ولا يقبل إلا طيبا إن accepte que ce qui est bon. Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Et sachez qu'Allah سبحانه وتعالى a enjoint aux croyants ce qu'il avait enjoint aux prophètes. يعني ce qu'Allah سبحانه وتعالى nous demande ce qu'il avait demandé aux prophètes. Qu'est-ce qu'il avait demandé aux prophètes? Ya ayyuha rusul, kulu min al-tayyibati wa amalu salihat. Oh prophète, Allah t'a donné à appeler prophète. Oh prophète, mangez, consommez de ce qui est licite et accomplissez les bonnes œuvres. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait enjoint aux prophètes, c'est qu'ils ne consomment que ce qui est licite. Qu'ils ne se nourrissent que du licite. Ensuite, qu'ils font des bonnes œuvres. Qala inni, qala Allah ta'ala inni bima ta'amaluna alim. Et certes, je suis savant de ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala est savant de ce que nous faisons. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Et en s'adressant au croyant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, oh vous qui avez cru, nourrissez-vous de ce qui est licite. Nourrissez-vous du licite. Naam. Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Nourrissez-vous à partir de ce que nous vous avons accordé comme richesse. Donc, tout ce qui existe sur terre, ce sont des richesses d'Allah wa ta'ala qu'il a accordé à ses créatures. Mais seulement, ils ne nous ont autorisé d'utiliser de ces richesses que ce qui est licite. Parce que tout ce qui existe sur terre, comme bien, tout ce qui pousse, ce qui est licite et illicite font partie des richesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il nous a autorisé de cette richesse, c'est ce qu'il est licite. Summa zakara rajul. Dans le hadith, le prophète sallam poursuit en disant, il dit ensuite, le prophète sallam avait cité un homme, Yutil al-Safar, qui effectuait un long voyage, Ash'atha, Akbara, yani qui était dans un état compliqué, avec des habits déchiquetés, avec de la poussière sur lui. Quand tu le voyais, tu sentais que c'était vraiment un besogneux. Vous savez pourquoi le prophète sallam décrit la situation de cette personne? Non? Parce que le voyage fait partie des causes d'acceptation des invocations, comme il a été rapporté dans le hadith. L'invocation du voyageur fait partie des invocations qui ne sont pas réalisées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'angoisse fait partie des causes d'acceptation de l'invocation. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Amma yujibul muqtarra idha da'a. Qui est celui qui répond à l'invocation de l'angoissé lorsqu'il l'invoque? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de ce verset, on comprend que l'angoissé, lorsqu'il est angoissé, Allah subhanahu wa ta'ala exauce sa prière. Voilà une personne qui avait réuni toutes ces conditions. C'était un voyageur et le voyage fait partie des causes d'acceptation, d'invocation. Il était angoissé. Quand tu vois quelqu'un dans un état pareil, avec des cheveux touffus, plein de poussière, des habits déchiquetés, c'est un angoissé. C'est ce que le prophète veut qu'on comprenne dans le hadith. Yamoudou Yadéhi, il a sama. Et pendant qu'il était dans cette situation, il avait levé sa main vers le ciel. Et le fait d'élever la main vers le ciel lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des causes de l'acceptation de l'invocation. Donc, cette personne, à elle seule, avait réuni trois causes d'acceptation d'invocation. C'était un voyageur, un long voyage. Et il était emboîté et il avait levé la main vers le ciel. Et dans le hadith, le prophète sallam dit « Inna Allah hayyun karim yastahyi min abdihi idha rafa ilayhi yalayhi an yamuddahu ma sifra » Il dit « Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là qui a honte et qui est noble. Il a honte que son serviteur Naam lève ses deux mains vers lui et qu'il laisse revenir ses deux mains vides. » Vous savez que le fait d'élever la main fait partie des causes d'acceptation de l'invocation. Alors que cette personne avait réuni toutes ces conditions d'acceptation de l'invocation, de pouvoir se l'impulsion en disant, il disait « Ya Rab, wa huwa tawassul fi du'a bi asma illah al-husna » Parce que Rab fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses beaux noms. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa lillahi l'asma al-husna fad'uhu biha » À Allah appartient les beaux noms, invoquez-les à travers ces beaux noms. Il avait invoqué Allah à travers un bon nom parmi les bon noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, c'est quelqu'un qui avait réuni toutes les conditions pour que son invocation soit validée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, il y a un problème. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Pendant qu'il avait réuni toutes les conditions d'acceptation de l'invocation, il se nourrissait, ce qu'il mangeait au moment même où il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala était haram, illicite. Ce qu'il buvait était illicite. Ce qu'il portait sur lui était illicite. En fait, c'est quelqu'un qui avait été nourri par l'illicite. Le prophète dit, Anna Yustaja Bouddhizali, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut exaucer les invocations d'une telle personne? Donc, il ne suffit pas seulement de réunir les conditions, mais il faut également que Al-Mawali soit écarté. Les choses qui empêchent qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation doivent également être écartées pour que l'invocation soit exaucée. Voilà pourquoi Omar, radiallahu anhu, dit, لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. Il dit, je ne m'inquiète pas pour l'exaucement de la prière. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala se réalise toujours. Donc si quelqu'un invoque Allah sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce sa prière, ça veut dire qu'en réalité le problème c'est lui. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème c'est pas au niveau d'Allah, c'est à son niveau. Voilà pourquoi on parle disait que ce qui m'inquiète, c'est pas la réponse, mais c'est la dua elle-même. Est-ce qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Voilà ce qui m'inquiète. Parce que si on invoque Allah comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala exaucera nos prières. Mais le problème c'est est-ce que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Donc, voici un hadith clair qui nous prouve, ou alors qui nous montre clairement que le fait de consommer des disciples est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et que le fait de se nourrir de l'illicite constitue en réalité une arme de destruction massive. Parce qu'on ne peut pas s'en passer de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut s'en sortir. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aide pas, on ne pourra pas nous en sortir. C'est pour ça qu'il faut toujours entretenir la relation qui existe entre soi-même et son créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en évitant ce genre de choses. وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفدتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. طيب dans ce récit rapporté par Imam Ahmad, rapporté par Abdullah ibn Imam Ahmad dans le livre intitulé Kitab al-Zuhd, il dit, il a été rapporté que une fois Un malheur avait frappé les enfants d'Israël. Ils sont donc sortis pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation en disant, il a révélé à leur prophète, yani à cette époque, en disant, « Innakum takhrujuna ilayhi ila as-sa'id bi abdani najisa. » Vous sortez, vous allez, non, vous vous réunissez à un endroit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que vous portez des armes corrompues. Biabdani najisa, alors que vous portez des armes corrompues. Wa tarfa'una ilayya akufan qad safaqtum biha ad-dima. Et vous levez vers moi des bras avec lesquels vous avez versé du sang. Wa mala'tum biha buyutakum min al-haram. Et avec ces mains, vous avez rempli vos maisons des choses illicites. Al-ana hina ishtadda ghadabi 'alaykum. Et c'est maintenant, après avoir approuvé ma colère, que vous voulez m'invoquer, et dans cet état, وَلَنْ تَزْدَادُ مِنِّي إِلَّا بُعْدًا. Vous ne recevrez de moi que l'éloignement de ma miséricorde. Vous voyez pourquoi ce livre est important. Parce que tout ce qui est dit ici, en réalité, parle de notre situation. Ça, c'est nous, c'est ça la réalité de nos situations. Qui est celui-là qui n'a pas rempli sa maison des choses illicites? Qui est celui-là qui ne se nourrit que du liquide? Pourtant, c'est ça la voie de la foi. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons nous en sortir. Et ce n'est qu'à travers l'abandon des biens illicites, de la consommation des choses illicites, que nous pourrons purifier nos âmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملل. Et Abu Dhar avait dit يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي من الطعام من الملل. Il est suffisant dans une invocation, non? Qu'elle soit une bonne invocation, comme ce qui suffit à une nourriture, comme un lit. La quantité du bien qui est suffisante dans une invocation pour qu'elle soit bonne, c'est la quantité du sel qu'il faut pour qu'une nourriture soit bonne. Et à niveau de invocation, ne peut être une bonne invocation que si elle est basée sur la purification. Non, la purification représente pour l'invocation, c'est que le sel représente pour la nourriture. فصل الدعاء دواء. Maintenant, Ibn al-Qayyim rahimahullah, après cette introduction, va attaquer le premier chapitre de ce livre. Il dit chapitre الدعاء دواء. L'invocation représente une guérison, constitue une guérison. C'est ça le titre de ce chapitre que nous allons suivre maintenant. الدعاء والدعاء من أنفع الأدوية. L'invocation fait partie des guérisons les plus efficaces. L'invocation fait partie des guérisons les plus efficaces. قال الشيخ عبد الرزاق وهو من أنفع الأدوية لكن نعم لكل داء ولهذا ينبغي للمسلم أن يعظم عناية بالدعاء وأن يعظم عنايته بالدعاء في كل باب من أبواب الدعاء. نعم. Et Cheikh Abdel Razak, hafizahullah, ici, il avait dit « Wa huwa min anfa'il adwiya li kulli da'. » Et l'invocation, en réalité, constitue une guérison pour toute maladie. Des maladies liées à la passion, des maladies liées aux ambiguïtés, les maladies physiques, en réalité, l'invocation constitue une guérison pour toutes ces maladies-là. ولهذا فلا فوق ينبغي للمسلم il faut que le croyant, le musulman, أن يعظم عنايته بالدعاء. Il faut que le musulman accorde beaucoup d'importance à l'invocation. Il faut que le musulman s'applique et accorde beaucoup d'importance à l'invocation. بالدعاء du'a fi kulli bab min abwab du'a, et ce dans tous les chapitres de du'a, yani dans tout ce qu'on entreprend, dans toutes les maladies qu'on souffre, qu'on ressent, on doit accorder beaucoup d'importance à l'invocation. Qala ibn al-Qayyim wa huwa aduw al-bala. L'invocation constitue et représente un ennemi pour le malheur. Qu'est-ce que le malheur n'aime pas? L'invocation. Yudafi'uhu wa yu'alishuhu. L'invocation, elle repousse et guérit le malheur. L'invocation repousse et soigne le malheur. Ça veut dire quoi, repousse et soigne? Ça veut dire qu'avant que le malheur n'atterrisse, il le repousse. Et lorsqu'il a déjà atterri, il l'écarte. Voilà le rôle. Voilà un rôle parmi les rôles de l'invocation. Et il empêche le malheur de s'installer. Et il dissipe le malheur lorsqu'il s'est déjà installé. Ou yukhafifa idha nazala, ou alors du moins il l'appelle. Yani il diminue ce malheur et il allège ce malheur. Wa huwa silahul mu'min. Et l'invocation représente et constitue un bouclier pour le croyant, une arme pour le croyant. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers ses serviteurs. Quand nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour notre propre bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, nous ordonne et nous enjoint de l'invoquer. C'est là une marque parmi les marques de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض رواه الحاكم قام حاكم ارابوتي دي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يعني لا رابوتي لو رسي دي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه سيدون لكل il aurait entendu le prophète محمد صلى الله عليه وسلم دي وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. L'invocation représente et l'arme. L'invocation est l'arme du croyant. Wa imaduddin, et le pilier de la religion. L'invocation représente une arme pour le croyant. Et c'est également le pilier de la religion. Voilà pourquoi dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-du'a ou ibadah »« Ad-du'a ou ibadah » L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. « Wa nuru samawati wal ard » Et l'invocation représente la lumière des cieux et de la terre. Donc celui qui est privé, ou alors qui se prive de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est privé de la lumière des cieux et de la terre. Et s'est privé du pilier de la religion et de l'âme du croyant. Il dit, وَلَهُمَا الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ مَقَامَاتِ. Et l'invocation avec le malheur a trois étapes. ثَلَاثَةُ مَقَامَاتِ. Trois étapes. قال أحدها وقال الشيخ حفظه الله لكن في الحديث الدعاء سلاح المؤمن إلى بمعناه أن الدعاء يدفع البلاء مثل ما يدفع العدو بالسلاح. كبدي الدعاء سلاح المؤمن كبدي l'invocation c'est l'arme du croyant. Cheikh Abdou Razak dit que cela veut dire que l'invocation repousse le malheur comme l'on repousse l'ennemi avec l'arme. Après, l'ennemi s'approche et constate que vous êtes avec. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il s'enfuit. C'est ce que la doua a l'invocation fait. Il dit, « وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ بِدُعَائِكُمْ وَبِدُعَائِهِمْ هذا واضح وفيه بيان أن الدعاء سلاح المؤمن. Il dit, dans un hadith authentique, que le Prophète sallam a dit, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala ne subvient à vos besoins qu'à travers les faibles parmi vous. Ça veut dire quoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala se comportait envers nous, non? Ou alors nous traiter comme nous le méritons, en réalité, il ne devrait pas subvenir à nos besoins. Parce que nous péchons nuit et jour. Pourtant, il ne nous a pas créés pour cela. Il nous a créés pour qu'on, l'adore. Mais, puisqu'il y a des pauvres parmi nous, puisqu'il y a des faibles parmi nous, il y a des enfants, il y a nos enfants qui sont des innocents. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous privait de ces bienfaits, ces enfants-là vont mourir. Ces enfants-là vont subir alors qu'ils sont des innocents. C'est à travers, c'est à cause de ces enfants-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala subvient à nos besoins, malgré nos péchés. Qu'est-ce que nous tirons de ce hadith comme des temps? La ta'ala de l'ahir. Ou lui maintenant le mot min al-khayrat. Parmi les leçons que nous tirons de ce hadith, c'est que l'homme ne doit pas se laisser tromper par ce qui lui arrive comme bienfait. Il se peut que ce soit à cause de tes enfants. Il se peut que ce soit à cause de tes enfants, à cause de cette femme faible, innocente, qui ne reste qu'à la maison et s'est contente à accepter tout ce que tu lui ramènes. Elle est innocente. Les enfants sont innocents. Mais toi, tu n'es pas innocent parce que tu sais ce que tu fais. Il ne faut pas te laisser tromper par cette apparence. C'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question. Chaque fois quand on sort le matin, qu'on essaie de se poser la question, où est-ce que je vais? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a autorisé d'emprunter ce chemin? Est-ce que ce bien auquel j'appuie est un bien ici? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائهم لو الله سبحانه وتعالى نسبيه à vos besoins à travers les faibles parmi vous. Ensuite il précise à travers les invocations, à travers l'invocation des faibles. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit walahuma al-fala'i thalath maqamat. Et l'invocation avec le malheur à trois degrés. Ahaduha an yakuna aqwa min al-bala fa yadfa'uhu. C'est pour ça que l'invocation doit être forte. Il dit le premier degré, ou alors la première situation, non, c'est que l'invocation soit plus forte que le malheur. Alors, à ce moment, l'invocation va repousser le malheur. Et nous avons entendu ce que c'est que c'est une invocation forte. Athani an yakuna ad'afa min al-bala fa yaqwa alayhi al-bala fa yusab bihi al-'abd walakin kad yukhaffifuhu wa in kana da'ifan. Le deuxième degré, ou alors la deuxième situation, c'est que l'invocation peut être faible que le malheur. Donc le malheur peut être plus fort que l'invocation. À ce moment, alors le malheur s'installera. Hein? Le malheur atteindra le serviteur. Comment il y a cause? Voilà que nous, quand il y aura plus de mais c'est peu qu'à partir du moment où il est invoqué à Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il soit pécheur, bien que son invocation soit faible, il sait peu que ça allégit. Non? Ça allégit le malheur. Ou incarne baïf, même si c'est un allégement faible. Al-Tharif, an yataqawama, wa yamna akullu wahid minhuma sahibahu. Et le troisième degré, voilà la troisième situation, c'est qu'ils aient presque le même, yani la même force. Le malheur, que le malheur et la joie soient au même pied d'égalité, à moitié de force. Et que chacun essaie de renverser l'autre. Non? L'invocation essaie de renverser le malheur essaie de renverser l'invocation. قال وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها Hakim a rapporté dans son Sahih un hadith de Aisha, radiallahu anha, qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yughni hadarun min qadarin, wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, wa inna al-bala la yanzilu fa yalqahu du'a'a fa ya'talijani ila yawm al-qiyamah. Qawahu al-Hakim. Fait. Ici, Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit la yughni hadarun min qadarin. قال الشيخ عبد الرزاق يعني أن القدر إذا جاء فلا بد من وقوعه مهما كان حذر المرء وهذا لا يعني تعطيل الأسباب. Dans ce récit, on t'indique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que, quelles que soient les précautions qu'une personne puisse prendre, ces précautions ne peuvent pas empêcher le destin. Quelles que soient les précautions qu'une personne peut prendre, ces précautions-là n'empêchent pas le destin. Hadafi, Imam bin Qadr, il faut qu'on croit au destin. Mais Cheikh Abdelazad dit que cela veut dire que ça veut dire que lorsque le destin arrive, rien ne peut le repousser. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit abandonner les causes. Cela ne veut pas dire qu'on doit abandonner les causes. On doit faire les causes. Voilà l'introduction faite par le prophète. Ensuite, il a dit, وَالدُعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ. Et l'invocation est utile. Pour un malin qui s'est déjà installé. وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ. Et pour un malin qui ne s'est pas encore installé. L'invocation est utile. Pour un malin qui s'est déjà installé, qui est déjà descendu, et pour un malheur qui n'est pas encore descendu. Et il se peut qu'un malheur descende et qu'il rencontre la dua, qu'il se rencontre avec l'invocation. Et il se bat jusqu'au jour de la résurrection. Il se bat jusqu'au jour de la résurrection. Ça c'est un hadith azim. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais se décourager en matière d'invocation. Et pendant que tu fais en disant que tes invocations ne sont pas exaucées, l'invocation est en train de bavarder avec un malheur. Jusqu'au jour de la résurrection, ça veut dire qu'il ne t'atteint pas. L'invocation bloque le malheur jusqu'au jour de la résurrection. Comme il a été cité dans ce récit de Hakim. وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. Et dans un autre hadith d'Abdullah ibn Umar رضي الله عنه, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit الدعاء ينفع مما نزل. L'invocation est utile contre un malheur qui s'est déjà installé. Et également contre ce qui n'était pas encore installé. Il y a un malheur qui n'est pas encore descendu. Fa'alaykum ibadallahi bid-du'a. Alors, s'inviter d'Allah subhanahu wa ta'ala à multiplier les invocations. Qala Cheikh Abdurrahman Hafizahullah wa yadullu alayhi ayat al-Isra. Il dit que ce qui a été dit dans ce hadith, le verset de Sourate al-Isra l'indique également. Qala Allah ta'ala, قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْهُمْ وَلَا تَحْوِيلًا إِلَّا يَمْلِكُونَ البلاء لا يملكون دفعه إذا وقع ولا تحويله قبل الوقوع. Méditons bien sûr le verset. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit à ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi. Dis, ceux que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, فلا يملكون كشف الضر. Ils ne peuvent pas, yani ils n'ont pas cette possibilité, ils n'ont pas la possibilité de lever un malheur, de lever un malheur qui s'est déjà installé, ou alors d'empêcher un malheur de s'installer, ولا تحويلا. Et ils n'ont pas la possibilité de changer un malheur, une situation. Yani les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, qui sont invoquées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que ici le verset parle des invocations. Dit, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas la possibilité de changer un malheur, d'empêcher un malheur, et ils n'ont pas la possibilité de changer ce malheur. Cheikh Abdelrazak dit, le respect veut dire qu'ils n'ont pas la capacité d'empêcher qu'un malheur s'installe, et n'ont pas la possibilité de le changer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala peut empêcher qu'un malheur s'installe, et peut changer un malheur après qu'il se soit installé. وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. dans ce hadith, le hadith de ثوبان qui rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « La yuraddu al-qadra illa al-du'a »« La yuraddu al-qadra illa al-du'a » Rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation. Rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation. « Wa la yadidu fil umri illa al-bir » Et rien n'augmente la longévité. Rien n'augmente la longévité si ce n'est les bonnes œuvres. Albert. Les bonnes œuvres. Wa inna rajul la yuhram rizqa bidam bi yusibuhu. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala empêche qu'une personne accède à une richesse à cause d'un péché. Il se peut qu'une personne n'accède pas à une richesse à cause d'un péché. Quand on lit ce hadith, on se rend compte que la personne qui avait posé la question à Ibn al-Qayyim avait une très grande compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'elle avait compris les conséquences du péché. Parce que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était noyé dans un péché et qu'il n'arrivait plus à se débarrasser de ses péchés, il a demandé l'aide. Parce qu'il a compris que le fait de se maintenir dans cette situation, non, c'est aller droit au mur. Et c'est ce que nous devons tous repentir. Chaque pécheur se doit de savoir que le péché, non, mène vers l'enfer. Et que le péché récurrent constitue une arme de destruction massive. Parce qu'elle détruit sur partie, détruit sur terre ainsi que dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. قال الشيخ عبد الرزاق حديث ثابت يعني لحديث ثوبان إنك صحيح حديث أوثنتيك وفيه أن الدعاء يرد القدر وليس معنى ذلك أنه يرد المكتوب في اللوح المحفوظ إنك dans ce hadith il en ressort clairement que l'invocation vient de repousse le destin mais le chef du commissaire ne veut pas dire que ça repousse le destin qui a été prescrit في اللوح Al-Mahfouz. Parce que ce qui a été prescrit dans l'Ouh al-Mahfouz, à la fin du hadith, on dit Rufi'at al-Aqlam, Jaffat al-Suhuf. Après l'écriture de ce destin, hein, Al-Qalam, qui est le stylo, ça a été levé et l'encre s'est séchée. Ça veut dire que c'est inchangé. Voilà pourquoi je apporte cette précision pour qu'on n'ait pas d'ambiguïté sur le sujet. Il dit وليس معنى ذلك أنه يرد المكتوب في اللوح المحفوظ وإنما معناه أن الدعاء من جملة المكتوب ففيه أن الله كتب البلاء وكتب الدعاء فيكون قدر فيكون قد دل السبب والمسبب وهذا فيه حق عظيم على الدعاء والإلحاح على الله. يجي مثل حديث بيتوجي أن الدعاء من جملة المكتوب فيه كسيت انفوكاسيون كي على رفوسي سيدتين fait partie des choses qui ont été prescrites dans Al-Lawh al-Mahfouz. Fait partie des choses qui ont été prescrites dans Al-Lawh al-Mahfouz. Il dit « Fabihi anna Allah kataba al-bala wa kataba al-du'a ». Donc ça veut dire que dans Al-Lawh al-Mahfouz, Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit le malheur et il avait également écrit l'invocation. Donc les deux ont été prescrits dans Al-Lawh al-Mahfouz. Et c'est pour ça que ceux qui s'embrouillent dans Bab al-Qadr, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est qu'Al-Qadr, et ils n'ont pas compris Maratib al-Qadr, les degrés de Qadr, parce que le Qadr est basé sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or Allah subhanahu wa ta'ala a une connaissance large qui enveloppe toutes choses, si bien qu'il connaissait ce qu'il a créé avant même de les créer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala connaissait tout ce qu'il allait créer, même avant même de les créer. Donc, ça veut dire que lorsque le fornicateur fornique, il ne faut pas qu'il accuse Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait écrit, ait prescrit, c'est parce qu'il savait qu'il allait forniquer. C'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé d'aller forniquer, c'est pas que c'est Allah qui lui a fait forniquer. Mais c'est que la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est là et qui enveloppe toute créature, même avant qu'elle ne soit créée, dans cette science, Allah savait qu'il allait forniquer. Et comme il avait décidé de tout écrire, il a écrit. Donc il n'y a pas d'excuse dans le cas d'un celui qui pèse. Donc, le chef nous rappelle, donc ça veut dire que dans l'Lawh al-Mahfouz, Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit al-bala. Il avait écrit le malheur. Et il a également écrit sa cause, la cause qui allait repousser ce malheur qui est Ad-Du'a. Fayakounu Qaddar. Fayakounu Qaddar Sabab wa Musabbib. Donc ça fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la cause, a prescrit la chose et sa cause. Et le chef dit wahada fihi haqqun 'azim 'ala ad-du'a wal ilha 'ala Allah. Il dit quand on comprend ça, on se rend compte non, du besoin que nous avons vis-à-vis de l'invocation. On a grandement besoin d'adorer et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Hada fi haqqun 'azim. Il y a une motivation terrible quand on comprend ce hadith. Une motivation terrible vis-à-vis du du'a. Parce que parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, c'est que la créature ne connaît pas Al-Qadr. En fait, Qadr élève pour la créature, Al-Qadr élève de l'invisible. Donc, en réalité, la créature ne doit pas s'adonner sur le Qadr pour faire ce qu'il veut. Non, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que Al-Qadr. Donc, à partir du moment où tu sais que la dua repousse le malheur, et tu ne sais pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit, tu dois faire quoi? Pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Après le chien dit, هذا أيضا من جملة المكتوب في اللوح المحفوظ فيكون كتب أن أمره كذا وكذا إذا دعا والحديث حسنه شيخ الباني. Donc le hadith de Rouban a été jugé bon par Cheikh Al-Bani. Ici le chef parle de la partie du hadith qui parle de l'augmentation en âge, en longévité. Et en réalité, ça veut dire que dans l'Lawh al-Mahfouz, Allah subhanahu wa ta'ala avait déterminé un âge pour la personne. Et a également déterminé un âge si jamais il fait la dua. Je ne sais pas si on a compris. Dans l'Lawh al-Mahfouz, il y a deux âges. Un âge si jamais il ne fait pas la dua. Et un âge s'il fait la dua. Vous voyez pourquoi on doit faire la dua? Qui n'aime pas la vie? Et c'est la dua! C'est la dua! C'est la dua! Amen! Amen! Naam! Voyez, Faslun, regardez comment Ibn Kayyim, il a rangé et on lit les paroles dans ce livre. Et quand on lit, on ressent l'amour et la miséricorde que ce savant avait pour la communauté du prophète Mohammed. Tout ça, c'est une réponse. C'est une réponse à une question. Et c'est pour aider la personne. Parce que quand on se rend compte que si on s'en tient à tout ce qui est dit dans ce livre, Inch'Allah, on s'en sortira. Après avoir parlé de l'invocation, il dit Faslun Fawa'id al-Ilha Fiddu'a. Dans ce chapitre qui parle des Fawa'id. C'est quoi?
Les mérites, les fruits.
Non? Les fruits de Al-Ilha Fiddu'a. Al-Ilha, c'est l'insistance. Les fruits de l'insistance dans l'invocation. Donc ça veut dire que quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on doit insister. Et là, on va parler des fruits de cette insistance lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez que si les musulmans avaient étudié ce genre de livres qui sont basés sur les textes clairs du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils n'allaient pas avoir besoin d'aller chez ce charlatan qui les trompe. Tout est clair en Islam. Il faut juste qu'on soit édifié, qu'on soit renseigné. Et c'est pour ça que nous devons prendre le chemin de la recherche, de la science. Parmi les traitements les plus efficaces, les remèdes les plus efficaces, al-ilha ou fiddu'a, l'insistance dans l'invocation. Donc, l'invocation en elle-même constitue un traitement. L'insistance dans cette invocation constitue un autre traitement. Donc si les deux traitements, si deux traitements forts sont associés, vous-même vous imaginez ce que ça va donner. Donc parce que Ibn Qayyim dans le premier, il a dit que l'invocation fait partie des traitements, des remèdes les plus efficaces. Et ici il dit que l'insistance dans l'invocation fait également partie des remèdes les plus efficaces. Et si on associe deux remèdes efficaces, Inch'Allah, ça va marcher. Qala wa qad rawa Ibn Majah fi sunanihi min hadith Abi Hurayra. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man lam yas'al Allah yaghdabu alayhi. Hasanahu al-Albani fi silsilah. Fi silsilah sahiha. وفيه حث على الدعاء ويدل على مكانته عند الله. Dans ce hadith rapporté par Ibn Majah dans son Sunan, hadith d'Abi Hurayra, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man lam yas'al Allah yaghdabu alayhi. Celui qui n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Regardez l'introduction. Vous voyez comment il a classé ses paroles. Il commence par cette introduction pour nous montrer la place de l'invocation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous orienter vers l'attitude que le croyant normal se doit d'adopter. Parce que le croyant normal évite tout ce qui engendre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est même pour ça que chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de dire « Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim » Guide-nous sur le droit chemin. La voie de ceux que tu as comblés par tes bienfaits et non ceux qui ont encouru ta colère. Donc si tu dis ça sans éviter tout ce qui engendre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque part tu n'es pas sérieux. Ce que nous sommes convenus sur ça ici lors d'une assise, non? Que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans faire des causes n'est pas normal, il n'est pas sérieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être des croyants sérieux. Donc, dans ce hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ou jugé bon par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le prophète dit, celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se met en colère contre lui. Wa fi sahih al-Hakim min hadith Anas, anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ta'jizu fi du'a, fa innahu la yahliku ma'a du'a'i ahadun. الله أكبر. لكن هذا الحديث ضعيف. نعم، تصح الحديث فاذا اللي صار في حديث هو لا تعجزوا في الدعاء، يعني نبو ديكلاري با انكابابل دانفوكي الله، نسوي با دان لانكاباسيتي دانفوكي الله سبحانه وتعالى. فانه لا يهلك مع الدعاء احد سيرت بيرسون نسيدا، نعم بيرسون لي مير avec la dua. Personne ne meurt. Yani quand on parle de mourir ici, on parle de la mort de l'homme, de tout ce qui est malheur. Al-halak, la destruction. Personne ne voué à l'égarement, à la destruction avec la dua. Mais comme nous avons dit, si l'Islam dit, yani, nakar, roba'atun, falayat koutou. Yani, qala Cheikh Abdelazal, si l'Islam dit, munkar al-hadith. Donc, dans la chaîne de transmission, il y a quelqu'un qui ne prend pas le hadith, quelqu'un qui en rejette le hadith. Donc, c'est un hadith qui n'est pas authentique. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفيه ما هو متروك. يعني في هذا الحديث، في حديث يأتي يعني صديق أوزاعي لبري زهري لبري عروة عن عائشة رضي الله عنها قال الله صلى الله عليه وسلم أدي إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى أم ceux qui invoquent avec insistance، ceux qui insistent dans leur invocation. Mais dans ce hadith، dans la chaîne de transmission de ce hadith، il y a un problème، c'est un hadith faible. في كتاب الزهد الإمام أحمد عن قتادة قال مواغط ما وجدت للمؤمنين مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه. في كتاب الزهد الإمام أحمد دفري قتادة إذ قال مواغط ما وجدت للمؤمنين مثلا، donc voilà une parole qu'un ancien avait dit. ما وجدت للمؤمنين مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو. Je n'ai pas trouvé, pour les croyants, une parabole ou alors un exemple à citer comme celui d'une personne dans la mer, sur une pirogue. Qui se sent engagé et commence à dire Ya Rabbi, Ya Rabbi, la Allah Azza wa Jalla an yunjiyahu. Il commence à dire Oh Seigneur. Et c'est plus qu'Allah Subhanahu, en espérant qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala exauce sa prière. C'est pour dire, imaginez la situation de cette personne. Une personne au milieu de la mer, dans une pirogue, et qui se sent en danger. Comment est-ce qu'il peut invoquer Allah Subhanahu wa Ta'ala? Non, un peu plus arrêté, avec insistance. Donc,